Merci de nous rejoindre. Vous êtes sur Radio Orient. Il est tout juste midi. Le journal Nadia Bencher. Voici les titres que nous allons développer dans quelques instants. Les premiers verdicts contre les anciens responsables du régime syrien viennent de tomber. Le président déchu Bachar al-Assad et son ancien chef de la sécurité politique à Daraa ont été condamnés à la peine de mort. Le Parlement turc adopte une loi historique. Le texte ouvre la voie à la réintégration des combattants du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Pas d'amnistie en revanche, ni mesure concernant son chef Abdullah Öcalan, détenu depuis 1999. Et puis la France suffoque pour la cinquième fois cet été. 43 départements sont placés en vigilance orange ce mardi et ils seront 67 dès demain. Nous ferons le point dans cette édition. Bonjour, c'est un tournant judiciaire en Syrie. Les premiers procès visant des responsables de l'ancien régime débouchent sur leur première condamnation. Le président déchu Bachar al-Assad a été condamné à mort par contumace pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile déclenchée en 2011 en Syrie. Réfugié à Moscou depuis la chute de son régime en décembre 2024, il fait l'objet de cette décision historique rendue par un tribunal syrien. Les autorités de transition ont également condamné à mort Atef Najib, ancien chef de la sécurité politique à Daraa, dans les premiers procès visant des responsables de l'ancien régime. Le retour de déplacés kurdes syriens vers la région de Ras el Ain dans le nord-est de la Syrie a été suspendu après des attaques de groupes armés ayant fait plusieurs blessés. Ces retours s'inscrivent dans l'accord conclu en janvier entre les autorités syriennes et les Kurdes, tandis que près de 100 000 déplacés espèrent regagner leur région d'origine. Est-ce vraiment la fin du conflit entre Ankara et le PKK kurde? La Turquie a adopté lundi soir une loi historique sur la réintégration des combattants de la guérilla du PKK au terme d'un processus de paix engagé depuis près de 2 ans. Le texte a été adopté à une très large majorité. Il fait donc consensus dans la classe politique turque. Mais alors, que prévoit-il et pourquoi constitue-t-il un tournant, Inès Gilles?
Et oui Nadia, c'est au terme de 12 heures de débats et des discussions houleuses que cette loi historique a été adoptée. C'est un texte au nom peu évocateur puisqu'il a été baptisé « Loi sur le renforcement de la solidarité nationale et de l'intégration sociale ». Mais il pourrait avoir des effets considérables selon la présidence turque. C'est, je cite, « un signe important vers la mise en œuvre d'une Turquie sans terrorisme ». Mais alors, que prévoit ce texte? Eh bien, il encadre le retour à la vie civile des combattants kurdes du PKK qui ont renoncé aux armes. Il prévoit de suspendre pour une durée de 5 à 10 ans les poursuites judiciaires et l'exécution des peines pour certaines infractions. Résultat, quelques 3500 anciens membres de la guérilla pourraient être libérés prochainement. Néanmoins, les auteurs de crimes les plus graves, notamment les homicides volontaires, restent exclus du dispositif. En effet, ce texte ne prévoit pas d'amnistie générale. Le gouvernement tient à insister sur ce point car l'opinion publique turque est toujours très marquée par ce conflit vieux de 4 décennies qui a fait au moins 50 000 morts. Le texte ne règle pas non plus le sort du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan. Âgé de 77 ans, il est détenu à l'isolement depuis 1999, condamné à la prison à vie sur une île prison au large d'Istanbul. Pourtant, le PKK réclame sa libération en affirmant qu'il a joué un rôle, je cite, de coordinateur du processus de paix. L'an dernier, Abdullah Öcalan avait appelé les combattants du PKK à déposer les armes, répondant ainsi à la main tendue d'un proche allié du président Erdogan. À peine adopté, ce texte a déjà des effets d'apaisement. À l'issue du vote, le chef du parti nationaliste MHP, Devlet Maşeli, a été vu serrant la main des responsables de la formation DEM, le parti pro-kurde.
Merci Inès pour ces précisions. Donald Trump assure que ses relations avec Benjamin Netanyahou restent très bonnes malgré le rejet par Israël de la feuille de route américaine pour Gaza. Le Premier ministre israélien maintient qu'aucun retrait de Gaza n'aura lieu avant le désarmement complet du Hamas. Sur le terrain, dans les territoires palestiniens, la tension ne baisse pas. En Cisjordanie, dans le village de Taïbé, la dernière bourgade chrétienne de Palestine, la multiplication des avant-postes des colonies sauvages a entraîné une augmentation des violences et des provocations de la part des colons qui ont saisi des terres palestiniennes non loin du village. Le père Bachar Baziel, prêtre dans l'église latine de Taïbé, redoute de voir les familles contraintes d'abandonner leurs terres face à l'expansion coloniale et l'impunité des forces d'occupation. Il appelle la communauté internationale à prendre des actions concrètes. On l'écoute.
Il y a plus que de 8 voitures à brûler par le colon. Ils sont brûlés la voiture, ils sont brûlés le terrain vide, et toujours il y a quelque chose, quelques attaques. Et il a occupé beaucoup de terrain à l'ouest de Taïbé, il a occupé beaucoup de terrain à l'est de Taïbé. Nous faisons face presque chaque jour à des incursions de colons et à des attaques contre les propriétés privées, à la destruction de la terre agricole, à la fermeture de routes, à restriction de circulation et à pression constante sur la population. Et encore, il y a le checkpoint, encore il y a le barrière militaire, et encore il y a quelques restrictions militaires par l'Israélien et par le colon, et encore par les armées israéliennes. Quand il y a quelques attaques par le colon, et nous appelons directement le police d'Israël. Mais ils ne répondent pas, ils ne viennent pas, il vient après 1h30 ou 2h. S'il ne peut pas arrêter les attaques de colons, il faut faire quelque chose de spécial pour Taïbé. Nous nous sommes attaqués par le colon parce que nous sommes palestiniens, c'est pas seulement nous sommes musulmans ou nous sommes chrétiens. Et ça veut dire qu'ils veulent du respect par les communautés internationales. Donc ça veut dire que c'est pas seulement nous sommes chrétiens ou nous sommes musulmans, c'est pourquoi ils nous attaquent. La base de la vivre en dignité est quelque chose de vivre, quelque chose de vivre ensemble, de vivre en paix, de vivre en dignité, d'aller, de retourner, de faire la vie quotidienne comme le monde entier, comme tout le peuple qui vivra dans l'état de le monde. Nous sommes palestiniens, chrétiens ou musulmans, ou juifs, ou samaritains, ou durs, nous voulons de continuer notre vie à cette terre.
Le père Bachar Baziel, prêtre dans l'église latine de Taïbé, l'invité de Inès Gilles dans Grand Angle ce soir à partir de 18h. Et sachez par ailleurs que l'armée israélienne a déclaré le village chrétien de Taïbé zone militaire fermée aux non-résidents israéliens, invoquant la multiplication des attaques de colons contre les Palestiniens. En Libye, le chef du renseignement militaire des forces du maréchal Khalifa Haftar a été tué dans un attentat à la voiture piégée à Benghazi, dans l'est du pays. Une attaque qui rappelle la fragilité persistante de la situation sécuritaire dans une Libye toujours divisée entre deux pouvoirs rivaux. Autre incident majeur, cette fois dans l'ouest du pays, un important réservoir d'essence a pris feu avant de s'effondrer après une attaque contre la raffinerie de Zaouia. Les autorités ont décrété l'état d'urgence et ouvert une enquête, tandis que la Compagnie nationale de pétrole appelle à renforcer la protection des infrastructures énergétiques. Au moins 9 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes russes en Ukraine, dont 6 à Zaporijjia, visées selon Volodymyr Zelensky par des missiles balistiques nord-coréens, des missiles Zircon et des bombes guidées. 3 autres victimes ont été recensées dans la région de Dnipropetrovsk. Kiev a également été visée dans la nuit. En Colombie, les secours poursuivent leur recherche après le puissant séisme de magnitude de 7,4 qui a frappé l'ouest du pays. Le bilan s'élève désormais à 100. 132 morts et plus de 570 blessés. Un bilan qui risque de s'alourdir. Des centaines de secouristes et de volontaires fouillent les décombres à la recherche de survivants. Au moins 86 bâtiments se sont effondrés. 7 aéroports restent fermés et près de 190 personnes sont toujours portées disparues à Cali. L'état d'urgence a été décrété et plusieurs pays ont proposé leur aide pour soutenir les opérations de secours. La France suffoque de nouveau, la canicule gagne du terrain et s'étend progressivement à une grande partie du pays. 43 départements sont placés en vigilance orange ce mardi et ils seront 67 dès demain. Un nouvel épisode qui intervient après un été déjà marqué par plusieurs vagues de chaleur et leurs conséquences. On fait le point avec vous Inès Gilles.
Et oui Nadia, la chaleur continue de s'installer sur la France, déjà bien présente dans le centre et le sud-est. La canicule s'installe désormais sur une large partie de l'ouest du pays et gagnera les deux tiers du territoire dès mercredi selon Météo France. Alors prudence, vous l'avez dit Nadia, 43 départements sont placés en vigilance orange ce mardi, du Finistère à l'Hérault. Ils seront 67 mercredi avec l'extension de l'alerte au sud-ouest ainsi qu'à Paris et sa petite couronne. Les températures devraient atteindre jusqu'à 35 degrés dans l'ouest et 38 à 39 degrés sur le pourtour méditerranéen, avec un pic attendu en milieu de semaine. Cet épisode s'inscrit dans la continuité de la vague de chaleur qui touche le sud-est depuis le 28 juillet. Il ne s'agit donc pas, selon Météo France, d'une nouvelle canicule, mais d'un phénomène qui s'intensifie et s'étend à une plus grande partie du pays. Depuis le début de l'été, la France a déjà connu plusieurs épisodes de forte chaleur, dont un particulièrement précoce à la fin du mois de mai. Les conséquences se font déjà sentir car près de 70% du territoire est soumis à des restrictions d'usage de l'eau, alors que 94% des réserves souterraines affichent des niveaux en baisse. Les risques d'incendie restent également très élevés, même si la situation s'améliore sur plusieurs fronts. Depuis le début de l'été, plus de 120 000 hectares ont été ravagés par les flammes en France. Cette succession d'épisodes de chaleur intervient alors que le mois de juillet 2026 a été l'un des plus chauds jamais enregistrés dans plusieurs régions du monde, selon les données de l'Observatoire européen Copernicus.
Merci Inès pour tous ces détails. Dans le reste de l'actualité en France, à Toulouse, deux enquêtes ont été ouvertes après la mort d'un adolescent de 17 ans décédé à l'hôpital à la suite d'une course-poursuite avec la police après un refus d'obtempérer. L'une vise à déterminer les causes du décès, l'autre porte sur le refus d'obtempérer aggravé. La famille qui réclame toute la lumière sur les circonstances du drame envisage de déposer plainte. Deux policiers municipaux ont été blessés à l'arme blanche lors d'une agression lundi soir dans le centre de Toulouse. L'auteur, qui aurait tenu des propos à caractère terroriste selon le maire Jean-Luc Moudinque, a été interpellé. Les deux agents blessés au bras ont été hospitalisés. Et puis l'engouement est déjà très fort pour la visite du pape Léon XIV en France du 25 au 28 septembre. Le stade de France affiche complet pour la veillée avec les jeunes et plus de 200 000 personnes sont déjà inscrites à la messe prévue sur les Champs-Élysées. Près de 500 000 fidèles sont attendus pour cette célébration exceptionnelle. Et puis sport pour finir, les Bleus ont décroché hier la médaille d'argent du relais 4 x 200 mètres nage libre au championnat d'Europe de Paris, emmené par un Léon Marchand étincelant. Le quadruple champion olympique a signé le meilleur relais de sa carrière sur la distance et contribué à un nouveau record de France. C'est la fin de cette édition. Merci à Mohamed El Bezri pour la réalisation. Prochaine édition en langue arabe à 12h30 avec Balkis Annahas. À tout à l'heure pour le point de l'actualité de 13h.